Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission FL Shop sur la fréquence Flandre Lys. Une émission qui sera donc la dernière de la saison. Vous savez que FL Shop, c'est l'émission qui vous emmène à la découverte de l'univers d'un commerçant, d'un artisan ou d'une profession libérale, bref, des différents acteurs économiques du territoire. Et on est ravis aujourd'hui d'accueillir pour cette dernière émission de la saison Nathalie Buisine, qui est thérapeute EFT. Alors, on va découvrir dans un instant ce que signifie cette activité. Et bonjour Nathalie.
Bonjour Pascal.
Ravi de vous accueillir sur FL Radio et de découvrir donc cette activité qui est donc celle de thérapeute EFT. Alors, si vous voulez bien nous donner quelques explications pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne connaîtraient pas cette activité.
Et merci de m'accueillir sur votre radio. Alors, effectivement, l'EFT, c'est une thérapie qui n'est pas très connue, mais qui mérite de l'être. EFT, c'est un sigle qui signifie Emotional Freedom Technique, donc technique de libération émotionnelle en français. Et tout l'objectif de cette thérapie va être de travailler sur des expériences difficiles de vie qui nous créent des blocages, des freins, des pensées, des croyances limitantes, bref, des émotions négatives envahissantes qui nous empêchent d'avancer sereinement dans la vie.
Alors effectivement, tout un chacun se rend bien compte qu'on est, on est le produit d'émotions diverses et variées dès le moment où on ouvre l'œil, et là je me tourne vers notre technicien, jusqu'au moment où on le ferme. Bonjour Quentin qui assure la réalisation de l'émission et qui se bat chaque jour avec le sommeil.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai 4 heures de sommeil. C'est un exploit.
Donc oui, les émotions, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie qui est envahissant. Et effectivement, donc, est-ce que je peux résumer un peu votre métier ? On va essayer de dominer ça, de pouvoir comprendre comment ça fonctionne et comment on peut discipliner un peu ses émotions pour en tirer le meilleur.
Bien sûr. Alors, quand on est confronté à un événement difficile, à un événement même parfois traumatique, notre cerveau, finalement, va l'enregistrer de manière à pouvoir nous protéger et nous mettre en alerte si, à un moment ou à un autre, on est confronté à nouveau à une situation plus ou moins similaire. Et c'est ce souvenir qui aura été enregistré dans la mémoire émotionnelle qui finalement va nous générer à un moment ou à un autre de la journée une réaction émotionnelle et nous créer un blocage ou un manque de confiance, une phobie. Et donc tout le travail qu'on va faire nous en séance va être finalement d'aller rechercher ce qui est à l'origine de nos émotions.
On va aller derrière l'apparence des choses.
Ouais,
on va aller
exactement.
Chercher les causes et essayer de juguler ces causes
C'est
pour
ça.
Qu'elles ne produisent plus les mêmes conséquences, les mêmes symptômes.
Exactement. En fait, on va aller rechercher ce qui, dans notre vie, au cours de notre vie, a été un événement qui nous a laissé ces freins, ces blocages. Et donc, on va, à travers ça, identifier dans notre vie ces événements et pouvoir libérer l'émotion négative qui est attachée à ce souvenir. Et donc, par exemple, ça va nous permettre d'aller travailler sur des expériences comme une expérience de séparation, un divorce, un licenciement, un deuil, une expérience de harcèlement, une relation toxique, des conflits familiaux, des problématiques dans l'enfance qui, finalement, à travers lesquelles on s'est construit tout au long de notre vie et qui sont venus s'additionner tout au long de notre expérience, tout au long de la vie, et qui fait que bien souvent, à un moment, on est ou dépressif, ou on a du mal à canaliser nos émotions, ou on part dans des crises d'angoisse, des crises de panique. Bref, une difficulté d'une manière générale à canaliser nos émotions. Et donc, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, Voilà, tout au long de la journée, on est emprunt, enfin, on est complètement, on vit de nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et on a besoin de toutes ces émotions, effectivement, qu'elles soient positives ou négatives, on en a besoin. Mais l'idée, c'est qu'elles ne soient pas envahissantes et qu'elles ne nous empêchent pas d'avancer et de vivre notre vie de manière plus sereine. Et donc, pour ça, l'EFT va nous servir de technique pour venir canaliser ces émotions. Donc, comment ça se passe? À partir du moment où on identifie un événement qui a été difficile, par exemple, j'ai été harcelée à l'école et donc j'ai été victime à un moment d'un groupe qui me cherchait tout le temps, etc., etc. Donc, on va travailler sur des événements très ciblés et on va travailler à partir de l'émotion que ça nous laisse, puisque quand on évoque un souvenir difficile, ben, souvent, on a cette émotion négative qui remonte. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère. Quand on se remémore quelque chose qui a été difficile dans notre vie, tout de suite, on voit l'émotion qui monte. Ça va être les larmes, ça va être un agacement, un énervement. On va ressentir aussi des sensations corporelles. Ça peut être une boule dans la gorge, une pression dans la poitrine, une boule dans le ventre, etc. Bref, on va travailler à partir de ça. Et tout l'enjeu va être finalement de, tout en se remémorant ce souvenir et en faisant émerger l'émotion qui lui est associée et les sensations corporelles associées, ben, on va stimuler des points d'acupuncture avec les doigts. Donc c'est simplement ce qu'on appelle un tapping. En fait, on va stimuler 15 points d'acupuncture qui... C'est comme si finalement on appuyait sur des boutons pour envoyer un message de calme au cerveau. Finalement, on a une première partie où on va réexposer la personne à la situation traumatique, ou en tout cas à l'événement difficile qu'elle a connu. Et donc ça régénère l'émotion, ça ravive l'émotion. Et en parallèle, et ça on le fait en lui demandant de prononcer des phrases qui la remettent dans cet événement. Et en parallèle, on va stimuler ces points d'acupuncture et donc ça va envoyer un message de calme au cerveau. Et donc le cerveau, finalement, lui va se dire, ah bah ok, donc je peux parler de ça, mais tout en étant calme. Ok, donc...
Dissocier la réaction négative que peut
Tout à
provoquer
fait.
cette émission du fait de pouvoir travailler sur la cause de celle-ci
Tout à fait.
et l'évoquer, y penser.
Exactement, on va dissocier l'émotion négative du souvenir. C'est-à-dire que une fois que l'événement aura été traité, je pourrai parler de ce qui s'est passé, mais sans avoir l'émotion.
Mettre à distance.
Exactement. Et donc j'en parlerai avec la même distance, enfin avec le même niveau d'émotion que si je racontais ce que j'avais déjeuné le matin ou la veille. Et donc l'idée, c'est de, on se souvient toujours de ce qui s'est passé. Par contre, on sait que ça a été compliqué à un moment de notre vie, mais on ne ressent plus ces émotions négatives que ça a générées à un moment.
Alors, est-ce qu'on a tous la même réceptivité par rapport à cette méthodologie? Puisque si je comprends bien, et pour prendre un peu une comparaison avec le monde de la musique, ça veut dire que notre corps est une espèce de clavier sur lequel on peut appuyer sur certaines touches, donc ce que vous appelez des points d'acupuncture, et donc permettre d'annihiler cette émotion envahissante. Alors, est-ce qu'on a tous la même capacité? Parce que j'ai entendu dire en préparant cette émission, mais moi, je ne serai pas réceptif, moi, ça ne marchera pas, comme on entend beaucoup avec toutes les techniques d'ailleurs qui tournent autour du psychologique, hein.
Bien sûr.
Est-ce qu'on a tous cette réceptivité?
Bien sûr, bien sûr. En fait, alors j'ai envie de dire la première condition. C'est d'être à l'initiative de ce
De le
rendez-vous, de cet
vouloir.
échange et de le vouloir, effectivement. C'est pour ça que j'ai toujours un échange avant le premier rendez-vous avec la personne qui vient me voir, de manière à ce qu'on puisse échanger sur ses besoins, sur ce qu'elle attend, Répondre aux questions qu'elle pourrait avoir autour de cette thérapie qui est encore méconnue. Et à travers ça, à travers cet échange, ça va quand même me permettre de m'assurer que la personne est bien à l'origine de la demande. J'ai parfois des gens qui m'appellent en me disant, bah voilà, j'ai un besoin pour mon enfant, j'ai un besoin pour ma mère, j'ai un besoin pour un conjoint, etc. Je demande toujours à ce que la personne m'appelle pour m'assurer que finalement la personne est bien, même si parfois les gens peuvent appeler parce que c'est plus compliqué pour la personne qui est concernée d'appeler, de faire le premier pas. Mais c'est vraiment important qu'elle soit à l'initiative puisqu'on ne peut pas changer les gens sans qu'ils ne soient eux-mêmes d'accord avec ça. Et puis c'est contre-productif d'ailleurs. Donc non seulement c'est contre-productif pour eux, mais en plus bon, ça ne servira à rien. L'idée va être de pouvoir partager avec la personne quel est son objectif, ses attentes et finalement ce qu'elle ne sait plus faire aujourd'hui ou ce qu'elle aimerait faire c'est plutôt ce qu'elle ne fait plus et qu'elle aimerait refaire.
Comme une forme de rééducation à la gestion de ses émotions quelque part.
Complètement. Parce que finalement, j'ai vécu, par exemple, un licenciement. Ça a été difficile parce que je ne m'y attendais pas. J'ai entendu des mots qui ont été difficiles, qui ont été violents, qui ont été... aujourd'hui, pour moi, retrouver un travail, c'est extrêmement compliqué parce que j'ai perdu toute confiance en moi. Ou alors, ça peut être... j'ai été victime d'un pervers narcissique. J'ai une relation toxique avec mon ex-conjoint où j'ai été battue, j'ai été violée, j'ai été harcelée à l'école, j'ai été harcelée au travail. Tout ça finalement va générer des conséquences dans ma vie qui vont faire qu'à un moment j'ai du mal à avancer. Il y a des choses que je faisais que je n'arrive plus à faire ou il y a des choses aussi parfois que je fais que je voudrais arrêter. Par exemple, avoir des crises d'angoisse, avoir des crises de panique, avoir prendre des mauvaises habitudes, que ce soit des addictions ou des phobies, la phobie sociale qu'on retrouve beaucoup aussi depuis le Covid.
Par exemple, c'est une méthodologie qu'on peut utiliser par exemple pour arrêter de fumer?
Bien sûr. C'est aussi... Alors, j'utilise deux techniques. J'utilise l'EFT, j'utilise également l'hypnose ericksonienne, qui est une thérapie qui est un peu plus connue, l'hypnothérapie. Et donc, finalement, en fonction de ce qui m'a amené à un moment à me mettre à fumer, on va aller travailler différemment, soit l'une, soit l'autre des thérapies, soit les deux. J'utilise principalement l'EFT parce que c'est vrai qu'on... c'est une thérapie avec laquelle on a des résultats qui sont très efficaces et très rapides, enfin qui sont visibles dès la fin de la séance. Une fois qu'on a terminé de travailler sur un événement spécifique, on sait que on est.
Il y a assez vite un peu de bien-être qui apparaît et qui donne envie de se projeter.
Exactement. De toute façon, la première séance dure 2 heures d'office, puisque l'idée c'est que on a toute cette phase de prise de connaissance de l'histoire de la personne, de rencontre au cours de laquelle la personne finalement va expliquer son histoire,
contextualiser un petit peu
exactement et ce qui l'amène finalement à venir me voir et derrière on va commencer le travail. Mon objectif c'est vraiment que la personne puisse commencer à sortir apaisée, parce que quand on raconte une histoire qui sont parfois avec des expériences qui sont quand même extrêmement lourdes et douloureuses, mon objectif, c'est que la personne ressorte déjà apaisée d'une partie de cette histoire. Et donc, c'est comme ça qu'on amorce le travail et qu'on permet finalement à la personne de pouvoir s'alléger du sac à dos qui a été rempli de pierres. Vous savez, on a souvent cette image-là où le sac à dos rempli de pierres, où finalement le vase qui s'est rempli. Et parfois les gens me disent ça c'est pas grave. Donc ouais,
mais il faut éviter la pierre de trop.
Exactement. Et c'est parfois effectivement quand on met une goutte d'eau, c'est pas beaucoup, mais quand on met plein de gouttes d'eau dans un vase, à un moment il déborde quand même. Et donc toute l'idée, ça va être de vider ce vase progressivement de ce qui a été de ces expériences difficiles de vie.
Alors, comment se fait ce travail avec vous, donc cette thérapie? Vous avez un cabinet, comment ça se passe?
Tout à fait. J'ai un cabinet qui est aujourd'hui situé à Sailly-sur-la-Lys. Et donc, les gens donc, viennent soit parce qu'ils ont été conseillés par une personne qui est déjà venue me voir, soit parce qu'ils m'ont trouvé sur Resalib, puisqu'on peut prendre rendez-vous directement sur la plateforme de prise de rendez-vous Resalib, parfois aussi envoyé par un psychologue, et notamment une psychologue avec qui je travaille beaucoup. Et donc voilà, l'idée c'est, on a un premier échange déjà par téléphone avant le rendez-vous pour pouvoir voir comment je peux accompagner la personne, quel est son objectif, et répondre à ses questions. Comme l'EFT est une thérapie méconnue, l'objectif est de pouvoir expliquer et que la personne se sente aussi à l'aise avec ça.
Oui, puis il y a toujours une peur, ou en tout cas une appréhension de toutes ces techniques de travail psychologique ou même de psychanalyse. Enfin, et puis, il y a tellement de disciplines différentes qu'aujourd'hui, le grand public a un peu de mal à s'y retrouver. Et puis, parfois aussi, il y a des gens qui vendent des choses qui ne sont pas forcément tout à fait crédibles. Et donc, l'intérêt aussi, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens soient mis en confiance, je suppose.
Exactement, exactement. Et aussi de qu'ils soient en confiance, j'ai envie de dire, c'est le premier ingrédient qui va favoriser l'amélioration du bien-être de la personne. Quand on va voir un thérapeute, on a besoin d'être en confiance. Si on n'est pas en confiance avec son thérapeute ou avec la thérapie, on n'avancera pas. Donc,
de toute façon, c'est déjà le cas avec son médecin traitant ou avec son dentiste.
Exactement.
Donc, il n'y a aucune raison pour que ça ne soit pas nécessaire également dans ce type de travail.
Bien sûr. Et d'autant plus qu'on va venir se confier aussi sur des choses difficiles auprès d'une personne qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais rencontrée.
On va être dans l'intime parfois.
Exactement. Exactement. Dans des expériences douloureuses dont on n'a parfois pas envie de reparler. Et tout l'avantage de l'EFT, c'est qu'on peut aussi travailler sans avoir à reparler d'événements traumatiques. Et ça, c'est tout l'avantage de cette thérapie qui nous permet finalement d'aller aborder des moments difficiles de vie tout en permettant de le faire à son propre rythme.
Donc, il n'y a pas de temps de thérapie donnée, ça va dépendre de chaque personne, de chaque contexte.
Oui, exactement. Et en fait, d'une personne à une autre, en fonction de l'état dans lequel elle se trouve au moment où elle arrive, en fonction de la durée pendant laquelle elle a subi cette situation. Enfin, finalement, j'ai même parfois des gens qui me disent « Oh là là, vous savez, avec moi, vous avez du travail. » Et alors, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que tout le monde dit ça. Et que finalement, je me souviens notamment d'une dame qui était venue me voir, qui avait commencé la première séance comme ça. Et au bout de la troisième séance, elle me dit, bon, bah, c'est bien, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je dis, dites-moi comment ça a évolué depuis la dernière fois. Ah ben, ça va. Je dis, ok, donc pourquoi vous êtes là? Bon, je sais pas, on va regarder. Et puis voilà. Et en fait, finalement, on se rend compte qu'en travaillant juste sur quelques événements, on va pas travailler sur des périodes de vie.
Un peu comme un nœud qu'on enlève petit à petit en libérant certains liens, en fait.
Exactement. En fait, finalement, en travaillant sur les moments les plus importants, on va finalement avoir des effets sur le bien-être d'une manière générale. Si, par exemple, j'ai une enfance très compliquée, avec des événements récurrents, une enfance où j'ai subi des violences physiques, psychologiques, etc., c'est des événements qui se répètent parfois quotidiennement. On ne va pas travailler sur chacun de ces événements, mais on va aller rechercher les événements les plus forts, les plus intenses en émotion. Parfois, on a des flashbacks, on a des choses qui reviennent en cauchemar, des choses comme ça. On va aller travailler sur ces événements-là qui, finalement, vont apporter un apaisement et, par effet de ricochet, avoir, enfin, permettre de calmer finalement et de reprogrammer la mémoire émotionnelle, en fait, hein, finalement, c'est ce qu'on fait, d'aller voir les choses différemment sur ce que j'ai vécu. Et donc, sans avoir à travailler sur tous ces événements, ben, en fait, on va apporter un apaisement sur l'histoire globale d'une manière générale.
On va faire une petite pause musicale dans ce Eiffel Show, vous l'avez compris, qui est consacré donc aujourd'hui à la gestion des émotions et à la manière dont on peut mettre à distance celles-ci quand elles s'apparentent à des choses trop envahissantes. Et on revient ensuite avec Nathalie Buzyn, examiner donc ce métier, ce travail, cette activité de thérapeute EFT. Et c'est avec Indochine qu'on retrouve maintenant sur FL Radio avec La vie est belle.
Je suis né ici pour n'être qu'avec toi. Comme quelqu'un qui te sera et dont on parlera. Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi. Je serai quelqu'un qui sera. Je suis né ici pour n'être qu'avec toi. La vie est belle et cruelle à la fois. Elle nous ressemble parfois. Moi je suis né pour n'être qu'avec toi. La vie est belle, aussi belle que toi. Elle te ressemble parfois. Moi je suis né pour n'être qu'avec toi. Elle nous ressemble, toi et moi. La vie est belle, aussi belle que toi. La vie est belle, mais cruelle parfois. Elle nous ressemble, toi et moi. Moi je suis né pour n'être qu'avec toi.
La vie est belle, le groupe Indochine sur FL Radio. Vous écoutez toujours FL Shop, on est toujours en compagnie de Nathalie Buisine, thérapeute EFT, et on évoque avec elle cette technique, cette manière de gérer les émotions. Et pendant la pause musicale, on évoquait avec Nathalie justement la reconnaissance de cette technique au niveau mondial, puisque vous me disiez, elle a été étudiée et validée par l'OMS.
Effectivement, c'est une thérapie qui est relativement jeune à l'échelle des thérapies, hein, par rapport à l'acupuncture qui relève de millénaires de médecine chinoise, l'EFT clinique, puisqu'il y a plusieurs manières de pratiquer l'EFT, mais finalement l'EFT clinique est une méthode qui a été testée, qui a fait l'objet de plus de 200 études scientifiques, qui ont permis de démontrer son efficacité et ces études en ont fait aujourd'hui une thérapie qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé comme étant une thérapie qui va permettre de traiter de traumatismes. Donc, thérapie reconnue par l'OMS qui en fait aujourd'hui une thérapie qui va être utilisée par des thérapeutes qui ne sont pas aujourd'hui des professionnels de santé, mais aussi par des thérapeutes qui vont être des professionnels de santé.
Alors comment, Nathalie, vous en êtes arrivée, vous, à vous engager dans cette technique et embrasser cette activité?
Alors, c'est une longue histoire. Initialement, je n'ai pas du tout un parcours qui conduisait à ce
type d'activité.
Exactement, puisque initialement, j'ai plutôt une formation juridique. J'ai fait 5 ans de droit à la base. Et donc, j'ai un long parcours dans les ressources humaines en tant que juriste en droit du travail et en relations sociales. Et finalement, dans cette expérience, on est aussi beaucoup amené à traiter des émotions, puisqu'effectivement, on va conseiller des managers sur des règles de droit du travail qui sont plutôt des règles anxiogènes, généralement, hein, quand on est manager. On va être aussi confronté à des situations de stress, on a des délais à respecter, donc on a des enjeux qui soient stratégiques, humains, financiers, et donc finalement tout au long de cette expérience, j'ai été à la fois confrontée à la gestion de mes propres émotions comme à la gestion des émotions de mes interlocuteurs, et j'avais pas d'outils pour ça. Et pendant quelques années, j'avais cette envie finalement de trouver des clés.
Trouver une boîte à outils un petit peu pour vous aider dans votre profession.
C'est ça, une méthode, parce que on le fait avec sa personnalité. Quand on reçoit un collaborateur qui ne va pas bien, c'est pas toujours évident. On le fait avec ce qu'on est, avec notre propre personnalité, mais sans forcément avoir de méthode pour le faire. Et j'avais besoin finalement d'avoir un outil qui me permettent de, d'accompagner mes interlocuteurs et moi-même aussi, parce que finalement, pour bien accompagner les autres, il faut soi-même déjà être bien dans ses baskets. Et c'est là que j'ai découvert l'EFT.
Est-ce qu'il y a un cursus de formation particulier pour l'EFT ?
Alors, il y en a plusieurs. Hein. Disons qu'il y a beaucoup d'écoles qui vont enseigner l'EFT. Moi, j'ai fait le choix de l'IFPEC, qui est l'Institut français de psychologie énergétique clinique, pour laquelle j'ai considéré que les garanties étaient réunies pour proposer quelque chose de sérieux. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans ces thérapies, on peut trouver de tout. On peut s'inventer hypnothérapeute, on peut s'inventer...
Oui, aujourd'hui, c'est très facile encore, malheureusement, de mettre une plaque de thérapeute. Mais vous aviez le souci que ce soit crédible et sérieux.
Oui, bien sûr, parce que quand on prend en charge des personnes qui viennent nous voir, alors parfois ça va être pour arrêter de fumer ou parce que elle doit passer une période difficile, mais parfois on a des sujets qui sont bien plus lourds avec des traumatismes de viol, etc. Et l'idée, c'est on n'est pas médecin, donc l'idée c'est de pouvoir le faire avec une méthode et une approche qui soit sérieuse et de pouvoir ne pas le faire seul aussi, hein, de pouvoir être accompagné et entouré de personnes qui peuvent être ou psychologues ou psychiatres, etc., vers qui on peut orienter quand ça ne relève plus de notre domaine de compétences. Et cette école me permettait justement d'avoir, en tant qu'école enseignant l'EFT clinique, d'avoir justement le socle nécessaire pour pouvoir avoir une offre, une proposition d'accompagnement qui soit sérieuse et qui ne soit pas sortie du chapeau ou n'importe quelle formation rapide qu'on peut trouver sur Internet.
Et combien de temps dure cette formation ? Combien de temps faut-il pour former un thérapeute dans cette discipline ?
Alors, la formation va beaucoup varier d'une école à l'autre. Pour moi, j'ai suivi plusieurs cursus auprès de l'IFPEC, entre autres, de manière à pouvoir aller au bout, finalement, du cursus. Donc, le temps va aussi dépendre du temps qu'on va mettre, parce que il y a toute la partie pratique où, effectivement, on va aller s'entraîner avec l'école, justement, à pouvoir se mettre en situation et travailler...
Vérifier ses propres acquis.
Voilà, toute la théorie qu'on aura apprise. Donc, il y a tout un apprentissage théorique qu'on va ensuite confronter avec l'école par la mise en pratique. Et derrière, il y a aussi tout un temps d'analyse de cas sur lesquels on va travailler et qui vont devoir être, enfin qui seront soumis à l'école de manière à pouvoir valider nos acquis et également l'écriture d'un mémoire sur un cas clinique, un cas spécifique qu'on aura décortiqué de l'expression du besoin de la personne qui vient nous voir jusqu'à la résolution.
Alors, on va parler d'un aspect un petit peu plus concret pour les personnes qui souhaiteraient être accompagnées. Il faut envisager quel budget pour entamer un travail de ce type avec quelqu'un comme vous.
Alors, le budget, j'ai envie de dire, va dépendre du thérapeute.
Et du temps.
Et du temps, exactement. Sur une thérapie, certains thérapeutes, on sera sur un budget de 50, 60 euros et pour d'autres, on va pouvoir monter jusqu'à 130 ou 150. Tout dépend de la ville, etc. Bon, moi, aujourd'hui...
Alors, c'est un tarif horaire ou c'est un tarif forfaitaire sur la période de suivi ?
Ça dépend du thérapeute également. Ça, c'est le thérapeute qui va fixer lui-même le coût de la séance et est-ce qu'il facture à l'heure ou à la séance. Pour ma part, aujourd'hui, je facture à la séance 65 euros. Sachant que la première séance dure 2 heures, il faut bien compter 2 heures. Les autres séances, on est plutôt sur une heure et demie. Bon, le tarif reste le même, hein, qu'on soit sur la première séance ou les autres. Et ensuite, sur le nombre de séances dont on a besoin, tout ça va varier d'une personne à l'autre en fonction de la problématique. Parfois, une personne va venir pour... initialement en imaginant qu'elle aura besoin de 3, 4, 5, 6 séances parce qu'elle a été victime d'événements extrêmement lourds. Et finalement, on va se rendre compte que, assez étonnamment, on arrive à traiter parfois un ou deux événements au cours d'une séance, alors que d'autres personnes qui vont arriver avec une problématique qui,
apparemment plus légère,
finalement, on a plus de mal. Et voilà, et ça, ça ne s'explique pas forcément, mais voilà, d'une manière générale, on arrive à avoir de très bons résultats. Déjà un apaisement au bout de la première séance, et ensuite, on arrive à avoir de bons résultats au bout de 2-3 séances. Voilà, on arrive à retrouver aussi un confort intérieur agréable, d'autant plus que l'EFT a aussi cette particularité d'être une thérapie qu'on peut réutiliser à la maison. En fait, c'est une thérapie simple. On a 15 points à stimuler, à tapoter avec les doigts. Et au cours de la séance, on va apprendre à comment formuler les phrases, quels points stimuler, de manière à pouvoir
s'approprier quelques gestes qui permettent donc d'alléger la charge mentale.
Tout à fait. Tout à fait. Et j'ai par exemple, encore il y a quelques mois, une maman qui m'expliquait que sa fille que j'avais reçue en séance, qui avait elle-même calmé une crise d'angoisse d'une de ses amies au lycée en réutilisant les techniques qu'elle avait apprises avec moi en cabinet. Donc ça, c'était vraiment chouette de voir comment elle se l'était appropriée, mais aussi comment elle le mettait au profit des autres.
C'est Nathalie Buzine, thérapeute EFT, qui est avec nous ce matin dans FL Shop. On écoute à l'instant À tes côtés, justement.
Si je m'attache au temps qui court, si demain m'appelait au secours, si mon cœur devient même lourd pour toi, je resterai pour toujours. L'horloge tourne autour de moi, tout est rose autour de toi, les étoiles défilent autour de nous. Je suis côté de l'est à l'ouest, sur tes qualités je peux compter. Jamais je retournerai ma veste, ma vie je la passerai à tes côtés. Je te lirai matin et soir, s'il le faut.
Même s'il devait s'arrêter, j'serai toujours à tes côtés. Les mots suffiront pas pour dire tout tout tout. Toi et moi c'est les, j'me demande si pour toi j'donnerai pas tout tout tout. Si t'es ma consonne, laisse-moi être ta voix. Et écrivons toutes nos phrases au pluriel. Et si chaque page de notre livre était un poème, rendons l'histoire intemporelle. J'suis côté de l'est à l'ouest, sur tes qualités je peux compter. Jamais je retournerai ma veste, ma vie je vais la passer à tes côtés. Je te lirai matin et soir, s'il le faut, et même jusqu'à terre, s'il le faut. Dans le temps ne pourra rien changer. Même s'il devait s'arrêter, j'serai toujours à tes côtés.
Non, le temps ne pourra rien changer. Même s'il devait s'arrêter,
À tes côtés, c'est une phrase que pourrait prononcer Nathalie quand elle accueille ses patients, donc pour gérer au mieux ces émotions envahissantes qui gâchent parfois bien la vie. On va peut-être maintenant vous proposer, Nathalie, un petit portrait chinois pour mieux vous découvrir. D'abord, quelle est la première qualité de Nathalie ?
La première qualité, je dirais, l'écoute.
C'est indispensable dans cette activité.
C'est indispensable, ouais, c'est indispensable. Et c'est d'ailleurs, même dans ma première activité professionnelle, je pense que c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit. C'est vrai, quand on fait une fonction de conseil ou d'accompagnement, c'est important de bien comprendre le besoin de notre interlocuteur. Ce n'est
pas toujours la première qualité qu'on reconnaît aux fonctions RH. Hein.
Alors peut-être, mais c'est vrai que...
Il y a des exceptions.
Oui, voilà. Non, mais c'est vraiment important de pouvoir être en écoute de nos interlocuteurs et c'est vrai, dans le métier des ressources humaines, d'être en écoute aussi bien des collaborateurs comme des managers qu'on accompagne, parce que finalement, nous, on est un peu le lien entre les deux. Et aussi, bien sûr, évidemment, je dirais en thérapie, puisque quand on accompagne une personne... L'objectif, c'est de pouvoir finalement bien comprendre ce qu'il y a derrière ce qu'elle nous dit, parce que...
Il y a le dit et le non-dit.
Exactement.
Ou le suggéré.
Exactement. Et puis même des choses pour lesquelles, dont la personne n'a même pas elle-même encore conscience. Et donc, c'est ça qu'il faut pouvoir aller chercher, aller pouvoir décortiquer de manière à pouvoir...
Pour mettre les mots justes.
Mettre les mots justes et avoir la bonne approche qui soit aussi écologique pour la personne.
Alors, quel est le plus gros défaut de Nathalie Buisine ?
Mon plus gros défaut, la procrastination, peut-être.
Partagé par beaucoup de monde. Hein.
Oui, voilà, c'est ça.
dans cette radio.
Oui, procrastination, sans doute, certaines choses que je remets parfois le lendemain. Je pense notamment à mon site internet qui doit être en cours depuis à peu près 6 mois, voire 8, si ce n'est plus. Et donc, voilà, des petites choses comme ça sur lesquelles je me sens moins ou d'appétence ou de compétence aussi parfois. Et que j'ai tendance à remettre au lendemain. Et finalement, quand je les ai faites, je suis bien contente de l'avoir fait. Mais ça doit être ça.
Si vous étiez une musique, Nathalie, quelle serait cette musique ou cette petite musique ?
Si j'étais une musique, ce serait le tango. Déjà parce que je trouve ça magnifique, mais au-delà de ça...
C'est une musique très émotionnelle, le tango.
Très émotionnelle.
Qui résonne jusqu'au plus profond de chacun de soi.
Exactement. Et qui, je trouve, des notes, qui s'expriment à travers, qui expriment une forme de passion. Et moi, je fais tout avec passion. Dans tout ce que je fais, je vais au bout des choses. J'ai besoin, ça, en fait, c'est finalement un moteur. J'ai vraiment besoin d'être passionnée par ce que je fais. Et donc, quand c'est ça, je compte pas mon temps, je compte pas l'investissement que j'y mets. Et je trouve que le tango, au-delà d'être une danse que je trouve magnifique, je trouve que ça dégage ça.
Si vous étiez une odeur, Nathalie, ce serait quelle odeur ? Est-ce qu'il y a une odeur qui vous incommode particulièrement ou une autre que vous appréciez, qui vous apaise ?
Une odeur qui m'apaise.
Ou qui vous donne de la passion ?
Je dirais le jasmin. Le jasmin, j'adore l'odeur du jasmin. J'en ai un dans mon jardin, jasmin étoilé. Dès qu'il y a un peu de vent là, qui me ramène l'odeur du jasmin, je trouve ça juste... c'est embaumant, ça fait voyager, en fait. Ça fait voyager. Je dirais même aussi... ça me fait penser aussi à la fleur de frangipanier que j'avais découvert... l'époque d'un voyage magnifique que j'avais eu l'occasion de faire sur l'île Maurice et qui était qui fait voyager et qui apporte déjà, rien que par son odeur, une forme de sérénité, de calme.
Alors, quand elle n'est pas dans son cabinet de thérapeute, Nathalie, ni dans ses autres fonctions professionnelles, est-ce qu'elle a la possibilité de pratiquer le sport ?
Alors, elle a pratiqué le sport et la course à pied jusqu'au Covid. Effectivement, j'aimais beaucoup ça et ça me manque.
Alors, c'est aussi une discipline qui permet de gérer l'émotion,
Ouais,
la course à
complètement,
pied, ouais.
complètement. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à courir, je ne savais pas courir, je n'aimais pas ça. Mais voilà, j'avais décidé de me mettre à courir parce que je voulais maigrir. Et, voilà. Et je voulais trouver une activité qui soit facile d'accès, que je puisse faire quand je l'ai décidé, et parce que j'avais peu de temps à moi, et donc il fallait que... Voilà. Et donc ça a été, bon, ça a été laborieux au départ, il a fallu m'y mettre, et finalement j'ai adoré ça. Si un jour, on me disait souvent, la course à pied, c'est addictif. Et je disais, mais n'importe quoi, je ne vois pas comment ça peut être le cas. Et bien finalement, si, j'ai vraiment connu ça. Et aujourd'hui, je suis allée jusqu'au semi-marathon, et ça, c'était une
Un
petite fierté.
objectif.
Ouais. Ben, en fait, ça ne l'avait, je n'avais jamais osé imaginer que je pourrais le faire un jour. Et finalement, ben, de fil en aiguille, c'est arrivé. Et voilà, c'était une
Vous
belle
aimez bien vous donner
satisfaction.
des challenges comme ça?
Oh, bah oui, en fait, si c'est trop facile, ça m'ennuie. Donc, il faut que, ouais, j'aime bien avoir des choses. Et c'est vrai dans tout, que ce soit dans la cuisine, dans la couture. J'aime bien coudre aussi. J'aime bien avoir quelques activités manuelles comme le tricot, etc. Mais faire des choses simples, bon, ça n'a pas trop, ça a moins d'intérêt. J'aime bien avoir du challenge. D'où aussi ma reconversion professionnelle, hein. C'est vrai que c'était finalement, au départ, quelque chose que je n'avais jamais osé penser. Et un jour, j'ai lu un article d'une personne, d'un consultant, d'un coach avec qui j'avais eu l'occasion de travailler, et qui avait écrit dans cet article que ferais-tu si tu n'avais pas peur? Et là, ça a été un déclic, mais incroyable. Et je me suis dit, ben, c'est vrai, en fait, si j'avais pas peur, ben, je le ferais. Et puis, bon, ça a été une sacrée aventure, parce que c'est vrai que ça demande aussi... Ben de remettre en question pas mal de choses, que ce soit à titre professionnel comme à titre personnel, mais c'était un chouette challenge que je suis contente d'avoir relevé.
Si vous étiez un plat ou une cuisine, ce serait laquelle ou lequel?
Un plat ou une cuisine, je dirais.
Alors plutôt territorial, j'allais dire on est en Flandre avec les estaminets, avec la bonne
Que
cuisine
j'aime beaucoup.
flamande, ou alors avec le voyage.
Ouais, je dirais peut-être la cuisine thaïlandaise, puisque c'est une cuisine que j'aime beaucoup. Alors, la cuisine flamande aussi. Les estaminets sont aussi des restaurants qu'on fait beaucoup par chez nous. Mais ouais, la cuisine thaïlandaise, si j'étais une cuisine, ce
Mélange
serait celle-là.
sucré-salé,
Ouais. Et mélange sucré-salé, et par le
casser les
mélange
frontières
des...
un peu.
Ouais, exactement, qui inspire aussi à la découverte de nouvelles choses. Je pense que le fait de pouvoir marier des saveurs, que ce soit le sucré, le salé, des épices, etc., ben voilà, c'est ce qui nous enrichit aussi à travers la cuisine, mais aussi à travers les rencontres qu'on peut faire dans la vie. Et je pense que oui, ça pourrait être une belle image à travers ce type de cuisine, d'associer des saveurs, des aliments, des épices, pour en faire quelque chose d'harmonieux.
Quel est le rêve pour demain de Nathalie?
Le rêve.
Si je vous donne une baguette magique et
Ah
je
là
vous dis,
là.
allez, vous pouvez exaucer le vœu que vous souhaitez,
Ah là là.
pour vous ou pour d'autres ou pour le monde entier.
Ouais. Alors, ouais, bah, il y en a un qui est particulièrement d'actualité. C'est quand on allume la télé et qu'on voit tout ce qu'on voit, c'est vrai qu'on se dit, c'est quand même fou de voir tous ces gens qui s'entretuent pour des hommes politiques qui sont censés être suffisamment intelligents pour diriger le monde, et qui aujourd'hui envoient des hommes se battre parce qu'ils ne sont pas capables de se parler. Donc, si j'avais un rêve, ce serait ça. C'est peut-être qu'on puisse apprendre à se mettre autour d'une table et de mettre les égos un peu de côté pour pouvoir éviter tout ça.
Et dans quelle mesure, justement, ce contexte médiatique, parfois agressif, parfois déprimant ne crée pas des émotions justement qui sont néfastes à chacun d'entre nous. Mmh. Est-ce qu'on n'a pas justement de plus en plus besoin de travailler sur ces émotions à cause même de l'envahissement de ces ondes médiatiques très négatives finalement ?
Bien sûr. C'est, en fait, le contexte actuel, qu'il soit politique, etc., enfin, économique, fait que les gens vivent dans une ambiance anxiogène. Il n'y a qu'à regarder les chaînes d'infos, c'est la pire des choses à faire.
Si on veut s'angoisser, il n'y a qu'à se mettre sur une chaîne d'infos, quelle qu'elle soit. D'ailleurs.
Quelle qu'elle soit, exactement. Et où finalement, les gens vivent dans cette ambiance anxiogène. Et donc, il faut savoir garder cette distance par rapport à tout ça pour finalement revenir à notre zone d'influence, notre cercle d'influence. Il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir agir et d'autres sur lesquelles ça n'est pas le cas. Et l'idée, c'est de pouvoir se dire, bon ben finalement, moi, dans mon cercle d'influence aujourd'hui, voilà où j'ai de la marge de manœuvre et ce sur quoi je n'ai pas de marge de manœuvre. Ben, essayer de le tenir à distance le plus possible pour se préserver autant que faire se peut de tout ça.
C'était Nathalie Buzine qui était notre invitée dans FL Shop ce matin. Nathalie, pour vous joindre, comment fait-on ? Est-ce que vous avez un site internet ou
Alors, le site est en construction, comme je le disais tout à l'heure. Il n'est pas terminé, mais il le sera. Et donc, il suffira de taper donc, mon nom, Nathalie Buzine, pour pouvoir y accéder. Sinon, aujourd'hui, on peut me joindre, on peut me trouver sur ma page Resalib, qui est un outil, une plateforme de réservation de rendez-vous en ligne, où on a accès à la fois à mes coordonnées, mais aussi à quelques explications sur ce qu'est l'EFT et également ce qu'on peut travailler avec tout ça. Et encore une fois, tout rendez-vous sera précédé de toute façon d'un premier appel pour échanger sur les besoins.
Merci en tout cas Nathalie d'avoir passé cette heure avec nous, de nous avoir permis de découvrir cette discipline, cette technique, donc l'EFT. Je rappelle que vous êtes thérapeute EFT et que vous aidez les personnes qui vont vous voir à gérer ces émotions envahissantes, à les mettre à distance et quelque part à soigner un peu les traumatismes que chacun d'entre nous peut rencontrer tout au long de la vie. Vous pourrez retrouver cette émission évidemment dans les podcasts de la radio sur www.radiofl.fr. Et puis donc FL Shop, c'est du lundi au jeudi de 10h à 11h sur FL Radio. On va se mettre, nous, dans quelques jours en vacances, en petite pause estivale, mais on vous retrouvera à la rentrée pour de nouvelles rencontres, des rencontres FL Shop autour des acteurs économiques du territoire. Merci encore, Nathalie. Merci à Quentin pour la réalisation de cette émission et on se retrouve tous très vite sur FL Radio.